Le cœur de l'aube, un voyage au pays des oiseaux avec Benoît Bizet et François Legris.
Donc là, on a toute la cohorte des oiseaux classiques, le merle, le rouge-gorge, l'accenteur, le troglodyte, les mésanges, les grives évidemment, la tourterelle, quelques turdidés, des corvidés aussi un peu. Là déjà, une fois qu'on a tout ça, on a bien identifié le fond sonore. On peut aller chercher des espèces moins communes. Mais maîtriser le fond sonore du matin, qu'on appelle le cœur de l'aube, ça permet d'identifier l'exception ensuite.
L'accenteur, par exemple, mouché, l'accenteur, on va le voir beaucoup dans les jardins, on va le voir beaucoup entre 0 et 2 mètres. Les buissons, ils se cachent, et puis quand ils chantent, il va se mettre à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, mais on ne va pas le voir dans les hautes cimes. Donc on le retrouve vraiment dans les jardins et dans les bois. Par contre, si on prend la grive musicienne, elle a besoin d'un point haut pour chanter, donc elle va avoir besoin de présence quand même de grands arbres. Même si c'est un oiseau qu'on voit dans les jardins, s'il y a un parc à côté, c'est quand même pas mal.
Pigeon en vol vers le nord.
Une tourterelle au loin.
Ouais, tourterelle derrière nous, là. Alors, tourterelle, c'est tourterelle turque, tourterelle turque, tourterelle turque, tourterelle turque.
Ah, le rouge-gorge. Un autre rouge-gorge sur son territoire.
Oui, il y en a deux, ouais.
Ah, on les entend, les pigeons.
Ah, les choucas, là. T'as entendu, les choucas?
Je les entends pas. C'est drôle.
Là, t'as pas entendu? Fontenay, t'as un milieu urbain. T'as les cotilles où t'as du bois, de la haie. Et puis t'as la plaine. On trouve pas les mêmes choses. Donc dans les jardins, on n'a pas de gros oiseaux. Les plus gros oiseaux qu'on peut trouver dans nos jardins, ça va être les corvidés. Dans nos jardins, on peut voir de la corneille. On voit pas mal de choucas, le pigeon ramier, la tourterelle. Ça va être les oiseaux les plus gros que tu vois dans tes jardins. Et puis à l'inverse, si on va se balader dans la plaine, là, on a des oiseaux plus spécifiques, plus gros, des rapaces. Alors quand t'as quelques arbres, malgré tout, il y a un peu de buse. Et puis, on a surtout une particularité avec les busards qu'on trouve sur Fontenay, qui sont des oiseaux typiquement de plaine, qui nichent par terre, donc qui passent dans les moissonneuses quand ils nichent un peu tard et que la moisson se fait un peu tôt. Voilà, c'est les plus gros oiseaux de plaine. Mais là, on passe du merle qui va faire 20 cm d'envergure à des oiseaux qui font plus d'un mètre. Mais ils ne se fréquentent pas, ils ne sont pas dans le même milieu.
Pour quelqu'un qui veut apprendre le chant d'oiseau, il ne faut pas s'y mettre au mois de juillet quand tout le monde sort sur la plage. En fait, il faut prendre le bonnet, prendre les gants et commencer en janvier. Voilà, janvier, février, mars, avril, parce que c'est assez fantastique, parce que c'est le printemps des oiseaux, c'est là où il y a la formation des couples, les migrateurs vont venir taquiner les sédentaires, il peut y avoir des bagarres de rouge-gorge. Moi j'ai vu en février-mars, quand certains rouge-gorges migrateurs viennent sur les sédentaires, c'est des bastons, hein, il y a des bastons dans le jardin, quoi. Et puis ça dure une journée, et puis après chacun trouve sa place. Et au mois d'avril-mai, en fait, on est sur le nourrissage. Donc là, ils ont beaucoup de travail, beaucoup de travail. Certains font même 2 nichées, 3 nichées. Et au mois d'août, on a les adultes qui sont fatigués et qui peuvent même muer. Et donc, ils perdent leurs plumes, ils sont fragiles, ils peuvent être prédatés. Et donc, ils se taisent, ils se cachent. Au mois d'août, les merles, vous entendez juste dans les bois, ou dans les jardins, vous entendez juste le rythme de leurs pas dans les feuilles. Ça fait tac, 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 tac. Et ça s'arrête, et il vous observe, ouais. Et il se cache. Et en plus, il y a des feuilles, donc vous ne voyez pas.
Petit bourdon.
Il détecte la senteur. Oh, le coq.
Ah non, c'était le faisan.
Oui, le coq faisan.
Ah oui, le coq faisan.
Le papa, ils ont échappé à la grande campagne de cet hiver.
Ouais, c'est clair. Ouais. Chaque oiseau a son phrasé, et à l'intérieur de chaque espèce d'oiseau, les oreilles très averties, ce qui n'est pas mon cas, arrivent à distinguer certains individus. Mais le chant est spécifique à l'oiseau. Il y a quelques espèces qui en imitent d'autres. Les tourneaux arrivent à imiter d'autres espèces.
En fait, le langage des oiseaux, il est un peu inconnu. On peut décrire des strophes, on peut distinguer le cri du chant. Par contre, dans une même espèce, c'est relativement reconnaissable pour une oreille humaine entraînée. Mais en réalité, les fréquences sonores des oiseaux, elles sont entre 2 kHz et 8 kHz. Alors on va entendre le 8, on va entendre les stries aiguës, mais c'est très 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 aigu. Et en fait, il y a une grande partie de leur son que l'oreille humaine est incapable d'entendre. Il y a des études sur les sons, ils disent que l'oreille humaine est capable de distinguer 30 variétés dans une seconde. Alors que les oiseaux en développent 10 fois plus dans une seconde. Ils sont capables de faire des variétés de sons de 300, 400 variétés de sons par seconde. Et là, nous, on entend... En fait, parfois, on doit entendre un son continu, un chant d'oiseau continu, mais à l'intérieur de la seconde, c'est pas du tout continu. Et du coup, ça reste quand même très, très mystérieux. Peut-être un peu comme le chant des baleines. J'imagine que le territoire se fait en fonction de l'abondance de l'alimentation. Voilà, peu d'alimentation, territoire très grand. Les petits oiseaux ont plutôt des petits territoires. Et les grands rapaces peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher leur nourriture.
Le chant correspond à une période bien particulière, qui est la période prénuptiale et nuptiale. Et le chant est fait pour délimiter le territoire d'un oiseau. Donc ce sont les mâles qui chantent d'abord. Et je dis toujours en rigolant, on aimerait bien avoir la traduction du chant, mais je suis persuadé que ce sont des propos du style « c'est chez moi, c'est pas chez toi, va voir ailleurs ».
Ah oui, il y a que son teur, là.
Ouais. Il y a le cri du pinson proéminent. Il se glisse en dessous un peu la senteur.
Le brouillard est long à se lever, c'est pour ça qu'on n'entend pas d'alouette.
Ah oui.
Là, en bordure de champ, on devrait avoir de l'alouette. Et la fauvette à tête noire n'est pas là. On n'entend pas.
Elle est migratrice ?
Non, non, elle est sédentaire, la fauvette à tête noire. Et la linotte, on n'en a pas non plus, la linotte. On devrait.
Moi, je me rappelle d'une vieille revue, La Hulotte, quand j'étais... Parce que moi, j'ai commencé l'ornitho, j'avais 20 ans, quoi. Je commence même avant 15 ans. J'étais abonné à La Hulotte, une petite revue faite par un instituteur avec des dessins au crayon. Et il parlait du DTT, un fameux produit pesticide d'après-guerre. Et en fait, les études ont montré clairement à l'époque que le DTT fragile, parce que le faucon se nourrit de pigeons qui lui-même a mangé du grain. Et donc le DTT, bah, les pigeons mangent du grain qui est dans les céréales. Et en fait, la coquille des œufs des faucons prélats ont été très fragilisés. Ils sont aperçus que sur 5 œufs, il y en avait souvent 3-4 qui étaient cassés, qui n'allaient pas à terme. Et quand ils ont interdit le DTT, et qu'en plus on a rendu toute une partie des rapaces plus protégés, eh bien quand on a interdit à la fois le DTT et protégé ce rapace, eh bien on arrive maintenant à des effectifs de faucons pèlerins qui sont rassurants, avec même des faucons pèlerins dans la ville de Caen.
Globalement, on est assez inquiet, notamment par l'appauvrissement des territoires. Disparition de la biodiversité, ça veut dire disparition des espèces d'oiseaux, inévitablement. Tout le monde parle des hirondelles, par exemple. Mais on a un mal de chien à dire si l'hirondelle est en régression ou pas. Et c'est pas parce qu'à un endroit, on avait l'habitude de voir quelque chose que l'espèce a disparu, parce qu'elle peut avoir bougé.
Par là-bas, ça fait être pas mal.
Voilà. Voilà, ça y est, j'ai les pieds trempés. Quand moi j'ai commencé l'ornitho un peu sérieusement avec des étudiants de SVT de la fac de Rennes, on allait dans le golfe du Morbihan à l'époque, dans les années 90, et les gars qui connaissaient bien nous disaient « L'aigrette arrive !» L'aigrette garzette arrivait en 90 en Bretagne. Et elle venait d'où ? Bah, elle venait de Camargue, en fait. Elle venait du bassin méditerranéen. Et là, maintenant, tiens, vous entendez un magnifique pivert en fond, là. Et du coup, l'aigrette garzette est remontée. On peut même imaginer qu'on ait assez vite en Normandie, de façon courante, de la huppe faciée, qui est un très très bel oiseau magnifique qu'on a plutôt dans le Midi.
Alors, je crois qu'il y a toujours eu une chouette effraie dans les tourelles. On a même installé l'année dernière un nichoir, une caméra dans le nichoir, et la chouette effraie s'est installée tardivement quand même. Elle a réussi à élever deux jeunes l'année dernière qui se sont envolés assez tard au mois d'août. Puis elle est partie, elle a vécu sa vie. Et puis, cette année, c'est pas une chouette effraie qui est revenue, c'est une chouette hulotte.
S'il y a du nourrissage à faire, ça peut être, il y a une période intéressante, peut-être quand même, parce que des fois, il y a des hécatombes, notamment par des très grandes vagues de froid, quand tout d'un coup, le froid vient du nord, et puis peut-être plus il y a 30 ans que maintenant en Normandie, mais quand tout d'un coup, il y a la neige, par exemple, quand il y a épaisseur de neige, certains passereaux, l'alimentation est vraiment rare, et là, on peut effectivement faire un peu de nourrissage, avec de la graine de tournesol et autres. Mais il faudrait que le nourrissage s'arrête. Dès que la température est bonne, il faut s'arrêter. Là, en mars, il ne faut plus faire de nourrissage, par exemple. En fait, les oiseaux, ils ne font pas partie de notre maison. Ils sont, c'est nous. Nous, on est dans la maison de la grande nature, en fait. Il faut les laisser faire.
À partir du mois de juillet, on entend beaucoup, beaucoup moins d'oiseaux. Là, tout de suite, c'est la période la plus intéressante de ce point de vue-là. C'est le cœur de l'aube. Le cœur, c'est C-H-O-E-R.
Alors, il y en a un que j'arrive.
La grive, alors je vais la faire trois fois. Tudut, tudut, tudut.